Prendre à moi le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Donc, vous le savez, sur ces quelques mardis, votre thématique générale sur les dimanches, sur les mardis, c'est l'Église. Et comme je vous l'avais expliqué, j'ai à cœur de partager avec vous les mardis soirs en approfondissement, de partager avec vous les lettres que le Seigneur Jésus adresse lui-même aux sept églises de l'Apocalypse par l'intermédiaire de Jean, mais c'est Jésus qui s'adresse à ces églises. Ces sept églises, bien-aimées, pour rappel, sont en réalité sept types d'églises. Des églises que l'on a toujours vues à la surface de la terre dans toutes les époques, tout au long de l'histoire et surtout et de plus en plus l'actualité, à la fin des temps, on s'aperçoit que le message qu'elle délivre a toujours et plus que jamais d'actualité. Chaque lettre contient un message spécifique et met en lumière des bonnes choses parce que le Seigneur, lorsqu'il fait le bilan d'une vie, lorsqu'il fait le bilan d'une église, prend le temps de souligner ce qui est bien, ce qui est bon. Il le voit, il le souligne, mais il met en lumière des points sur lesquels une église. C'est jamais la même chose selon les églises, mais des points sur lesquels les églises doivent réellement être vigilantes, parfois même réellement se ressaisir, se repentir, puisque on l'a vu, cinq églises sur les sept quand même reçoivent un appel solennel à la repentance. On a déjà parlé d'Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée. Ce soir, on va regarder Philadelphie. La semaine prochaine, on regardera l'église de Smyrne, qui sont en définitive, sur les sept églises, les deux seules églises auxquelles le Seigneur apporte des encouragements, des promesses, et ne fait en définitive aucun reproche. Je veux simplement, avant qu'on lise la lettre à l'église de Philadelphie, rappeler que ces lettres, pour montrer à quel point elles sont importantes, ces lettres présentent en réalité sept enjeux fondamentaux de la vie chrétienne, de toute vie de disciple, des enjeux majeurs de la vie chrétienne, les véritables batailles que nous sommes amenés à livrer et à remporter, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Parce que c'est vrai, oui, le Seigneur s'adresse à des communautés, il s'adresse à des églises, à des communautés, mais en réalité, chaque lettre se termine, on l'a vu, par que chacun écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises, et chaque lettre se termine par à celui qui vaincra, ce qui amène effectivement, chacun pour notre part, oui, il y a une responsabilité collective, mais il y a une responsabilité individuelle. Je reste responsable de ma propre vie, de mon propre engagement, d'être vigilant sur ce qui est réellement important dans la vie spirituelle. Par exemple, à Thyatire, le Seigneur disait, alors qu'une large majorité de l'Église avait été tombée dans la séduction de cette femme qui s'appelait Jézabel, le Seigneur dit, à ceux de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, il y en avait quelques-uns qui avaient, heureusement, qui n'étaient pas, qui étaient restés vigilants et qui n'étaient pas tombés dans l'esprit de séduction qui avait gagné cette Église. À Sardes, par exemple, qui s'enfonçait dans une hypocrisie religieuse, on l'a vu, souvenez-vous, le Seigneur dit, tu as ici, au milieu de toi, tu as quelques hommes, c'est pas énorme, hein, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, mais béni soit Dieu, chacun reste responsable pour sa propre vie, de son engagement, de sa vie de piété, et d'être vigilant à sa relation avec le Seigneur et avec sa parole. Et c'est essentiellement de la parole et de la loyauté à la parole de Dieu dont il va ce soir, puisque nous lisons ensemble la lettre à l'église de Philadelphie, donc Apocalypse, chapitre 3. Et on va prendre les versets pour ce soir, les versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je vais les faire venir se prosterner à tes pieds et leur faire connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui, verset 13, qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. L'église de Philadelphie, comme l'église de Smyrne, dont on parlera la semaine prochaine, apparaît effectivement tout de suite comme une église modèle. On voit que le Seigneur n'a pas de reproche à lui faire. Il y a probablement des lacunes, c'est vrai que cette église a peu de puissance, le Seigneur le souligne, mais il n'y a pas de reproche, il n'y a pas d'appel à la repentance, simplement des encouragements et simplement de belles promesses. Philadelphie est en train de remporter, elle est en train de gagner une des batailles majeures de la vie chrétienne, une bataille décisive de toute vie chrétienne et de toute vie d'Église, une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est celle de la persévérance, on va le voir, on va être même plus précis, celle de la fidélité, de la loyauté, parce que c'est de ça dont il va être question, de la loyauté à la parole. Jésus se présente comme le saint, le véritable. Le véritable, ici, dans l'original, c'est le Seigneur insiste pour faire le contraste avec ce monde de contrefaçon, là où il y a tellement de menteurs, où il y a tellement de façades, il y a ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, l'église de Philadelphie. Et là, confrontée, elle vit aussi à son niveau toute forme de pression, d'oppression, avec des gens qui se font passer pour, mais qui ne sont pas. Et le Seigneur se présente comme le véritable, une façon pour lui de dire « Tu as bien raison de croire en moi, tu as bien raison de mettre ta confiance en moi, parce que je suis le véritable. » Littéralement, il est en train de dire « Je suis celui qui a la réelle nature qui correspond à mon nom. » Et il fait un contraste, une opposition avec tout ce qui dans ce monde est souillé, contrefait, tout ce qui est façade, apparence, tout ce qui est perverti dans ce monde de mensonges, Jésus est en train de dire « Je suis, moi, parfaitement authentique. » Et il n'y a aucun décalage entre mon nom et, il n'y a, entre mon nom et ce que je suis et ce que je dis. Il n'y a aucune différence entre la personne de Jésus et sa parole. Aucun décalage, aucune omission, aucune contrefaçon. La parole de Dieu est l'expression la plus parfaite du cœur de Dieu et de la nature de Dieu. La parole de Jésus, c'est l'expression la plus parfaite de qui il est, de son être. Toucher à la parole, c'est toucher à Christ lui-même. Corrompre la parole, c'est toucher à la nature même de Dieu. C'est dénaturer, c'est dévisager le Seigneur. Après, donc le Seigneur se présente ainsi, il y a déjà un rappel de son authenticité. Je suis parfaitement authentique, moi, contrairement à tout ce qui se fait dans ce monde. Et puis le rappel de son autorité. Authenticité, autorité. Celui qui a la clé de David, qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Dans la pensée biblique, ce serait l'objet d'une étude, mais pour faire simple, souvenez-vous, comprenez simplement, que celui qui se voit confier les clés se voit confier l'autorité. Les clés sont un symbole d'autorité. Celui qui reçoit les clés est investi d'une autorité. C'est une façon pour le Seigneur de rappeler celui qui a la clé de David, il ouvre, personne ne fermera, il ferme, personne n'ouvrira. C'est une façon pour lui de rappeler qu'il a toute autorité. Il a un contrôle absolu sur tout. et sur tous, il a toute autorité dans le ciel et sur la terre, et aussi sur la mort et le séjour des morts. Au début de l'Apocalypse, le Seigneur se présente notamment comme celui qui a le passage glorieux, se présente comme celui qui tient dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts, ce qui signifie qu'il a une pleine autorité aussi, y compris sur le séjour des morts, sur le Hadès, sur la Géhenne, etc., parce qu'il en est sorti vainqueur. Il a une pleine autorité sur la mort et le séjour des morts. Autre exemple, quand Jésus dit à Pierre, parce que tu as confessé que je suis le Christ, sur cette parole que tu viens de prononcer, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette parole que tu viens de prononcer, de savoir que je suis Christ, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle, et je te donnerai les clés du royaume. Là, malheureusement, un certain mouvement pour lequel nous avons du respect, mais à qui nous ne pouvons pas être d'accord, c'est imaginer que Saint-Pierre était à l'entrée du ciel et que c'est lui qui ouvrait et qui permettait l'accès aux pécheurs. Ça, c'est une interprétation totalement erronée. Il n'y a pas de Saint-Pierre, il n'est pas plus saint que vous ou moi, et il n'est pas à l'entrée du ciel avec un trousseau de clés pour dire aux pécheurs, toi tu rentres pas, etc. C'est totalement erroné. Ces clés-là, savoir qui entre dans le royaume de Dieu, on parle du salut, ces clés-là, le Seigneur ne les donne à personne. Jésus est Yeshua, c'est lui le salut. C'est lui, il l'a dit clairement, je suis la porte. C'est lui la porte des brebis, c'est lui la porte du royaume de Dieu. Donc, ces clés-là, il ne les donne à personne. Il est le seul à avoir autorité suprême sur l'entrée dans le royaume de Dieu, le seul à avoir en sa possession le livre de vie, et c'est lui qui tient les comptes. Et il sait très bien qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Et c'est lui qui tient le registre. Excusez-moi de le dire ainsi, hein, façon association rituelle. C'est lui qui tient le registre à jour, et personne à part lui n'a accès à ça et ne peut déterminer qui entre ou pas dans le royaume de Dieu. Mais il faut comprendre, quand il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, en réalité, il va lui donner une autorité particulière. Pierre va jouer un rôle prépondérant, parce qu'on voit ensuite dans les Actes des Apôtres qu'il va ouvrir, par sa prédication, il va donner un accès à la Pentecôte, acte 2. Ceux qui sont venus pour la fête de Pentecôte et qui sont émerveillés en entendant les langues que parlent ces Galiléens sans instruction, tous ceux qui sont là, qui viennent du bassin méditerranéen, sont des Juifs qui sont venus pour célébrer la fête de la Pentecôte. Et quand ils sont là, eh bien simplement, l'apôtre Pierre prêche. Et c'est par sa prédication qu'il va donner accès premièrement aux Juifs pour le salut. Et puis il va donner un accès ensuite en acte 10 quand il est chez Corneille. C'est lui qui va inaugurer pour la première fois l'accès au salut par sa prédication lorsqu'il est chez Corneille pour les non-juifs. C'est dans ce sens-là qu'il a écrit. La clé est quand même un symbole, effectivement, d'autorité. Qui dit clé dit porte. Parce que si vous avez un trousseau de clé mais qu'il n'y a pas de porte, ça ne sert à rien, on est d'accord? Ça va? Bonsoir. Nous sommes le mardi 21 avril, il est 19h, vous êtes arrivés, ça va? Versets 7 et 8, qui dit clé qui nécessairement porte, de quoi ça nous parle? Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et le Seigneur dit à cette église, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Pourquoi? Parce que la porte, elle évoque l'accès, elle évoque l'ouverture. La porte, ici dans la symbolique, évoque une possibilité d'avenir. Le Seigneur est en train de dire à cette église, parce que tu es loyal à ma parole, parce que tu es fidèle à ma parole, parce que tu ne renies pas mon nom, parce que tu es fidèle à ma parole, je vais t'introduire dans un avenir que j'ai moi-même préparé pour toi. Moi, je détiens la clé. Moi, j'ai autorité sur tout et sur tous, sur n'importe quoi, n'importe qui ici-bas. Et c'est moi qui vais t'ouvrir, non seulement sur cette terre, mais dans l'éternité. C'est moi qui vais t'ouvrir des portes d'avenir. Il va offrir à ceux qui gardent sa parole, il va offrir des possibilités d'avenir. Il va offrir des opportunités à ceux qui sont loyaux à sa parole. Que sa parole, justement, soit connue, qu'elle soit répandue. Parce que si nous l'avons gardée, eh bien, nous la transmettrons fidèlement. Et donc, je vais ouvrir les portes pour cela. Acte 14, Paul et Barnabas racontent comment Dieu a ouvert la porte de la foi aux nations. Aux Colossiens, Paul dit « Priez pour moi afin que Dieu m'ouvre une porte, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ comme je dois l'annoncer, que j'en parle comme je dois en parler. » À un autre moment, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Puisque j'avais une porte grande ouverte et un accès efficace à Éphèse, je suis donc resté à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, puisque le Seigneur m'avait donné une porte grande ouverte et un accès efficace, malgré les nombreux adversaires. » La porte, elle évoque l'ouverture, elle évoque la possibilité offerte par Dieu, l'opportunité, elle évoque, pardon, les possibilités d'avenir. Ben c'est sûr qu'à Philadelphie, quand on regarde un petit peu aussi les autres églises, parce que toutes les églises dont on a parlé et d'autres, se trouvent effectivement dans cette même région, dans cette Asie mineure qui se trouve être la Turquie actuelle, et on sait pertinemment que cette église de Philadelphie, comme les autres, c'est une évidence, elle a eu de l'opposition, elle a forcément eu de la pression, elle a forcément eu de l'oppression. Il y a ceux qui viennent avec des masques, qui se font passer pour juifs, qui ne le sont pas. Il y a toutes sortes de contrefaçons. Il n'y a pas de raison qu'une église n'ait pas d'opposition ou n'ait pas de tentation. Effectivement, bien sûr, c'est une évidence, elle en a eu. Mais malgré cela, et parce qu'elle était loyale envers la parole, Dieu lui a ouvert une porte que aucune forme d'opposition n'a pu fermer. C'est ça que ça veut dire. Dieu a ouvert une porte. Aucune opposition ne pouvait fermer. Parce que c'est Dieu lui-même qui a ouvert la porte. Ce sont les adversaires qui vont prier, ceux de la synagogue de Satan, ceux qui sont juifs et qui ne le sont pas, ceux qui ont des masques, tout ce qui est contrefait, tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui concerne ce monde de mensonges, d'imitations, toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les formes d'opposition, peu importe. Le Seigneur dit, ce n'est pas toi qui vas plier. Ce sont tes adversaires qui vont plier. Alors, quand il est dit, je les ferai se prosterner devant toi, évidemment, d'accord, on ne prend pas ça au sens littéral. J'attends pas que les adversaires de l'évangile viennent se prosterner ici devant vous, dans la Slovagne, mais devant moi, c'est pas ça dont il est question. On ne le prend pas au sens littéral. Mais dans un langage imagé, c'est une façon de dire, ce sont les adversaires qui vont plier. Les gens qui sont fidèles à ma parole, ils ne plient pas, ils sont vainqueurs. C'est une façon de dire, je vais te rendre vainqueur. Alors oui, on en est conscient, on a conscience du contexte général de cette région, on a conscience des temps de la fin. Oui, les temps sont rudes, le Seigneur n'en cache rien. Oui, les temps vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus ténébreux, le Seigneur n'en cache rien, tout est clair, tout est écrit. Oui, il y aura de plus en plus d'injustices, oui, il y aura de plus en plus d'oppression, oui, il y aura de plus en plus de persécutions, oui, il y aura de plus en plus de tentations, mais Dieu, lui, le juste juge, celui qui est vainqueur et qui a remporté toutes les victoires et qui les communique, même si le temps peut paraître long, parce que c'est vrai, hein, Dieu est infiniment patient. Au-delà de ce que nous pouvons concevoir, au-delà de nos limites à nous, Dieu est infiniment patient avec les gens avec qui nous ne serions plus patients depuis tellement longtemps. Puisque même à cette abomination qu'était Jézabel dans l'église de Thyatire, même à elle, au point où elle en était, le Seigneur dit « Je lui laisse encore du temps afin qu'elle se repente. » Alors bien sûr, le temps peut paraître long, c'est parce que Dieu est infiniment patient, mais Dieu est en train d'assurer que rien n'est plus. Il est parfaitement authentique, il est parfaitement vrai, il est parfaitement digne de confiance, il a toute autorité, rien ne lui échappe, son royaume est inébranlable, son trône est inébranlable, son règne n'aura pas de fin, rien ne lui échappe, il saura nécessairement intervenir. La condition, si vous voulez, c'est est-ce que tu vas rester fidèle, est-ce que tu vas rester loyal à ma parole? Parce que si tu te tiens dans ma parole te tiendra. Peu importe ce qu'il y aura à l'extérieur, je te tiendrai. Si tu tiens ma parole te tiendra. Ma parole, Jésus, Jésus, la parole, c'est la même chose, on l'a bien compris. Et dans ces moments, effectivement, qui n'étaient pas non plus des moments simples, dans cette époque, qui n'était pas simple pour l'église de Philadelphie, dans cette attente, parce qu'il y a des encouragements, il y a des promesses, des encouragements à tenir ferme et des promesses d'avenir. On en parle dans quelques instants en conclusion. Mais en attendant, le Seigneur a su. C'est moi qui te garde, c'est moi qui te protège, c'est moi qui amènerai une issue et c'est moi qui ne serai pas, qui ne permettrai pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Malgré les adversaires, quelle que soit la forme de l'adversité, j'ai un avenir pour toi. Et je t'emmènerai au travers de portes spirituelles, j'ouvrirai des possibilités d'avenir devant toi que tu ne soupçonnes même pas. Amen. Et ça, ce sont des promesses bien aimées que nous devons saisir autant à titre individuel pour nos vies, autant pour nos couples, autant pour nos églises, autant sur le plan individuel que collectif. C'est toujours le même principe. Si tu gardes ma parole te gardera. Et n'oublie pas que j'ai un avenir pour toi. Alors c'est vrai que quand on regardait cette église, certainement qu'elle ne payait pas de mine, je le dis ainsi, elle n'avait visiblement rien d'exceptionnel, contrairement à Sardes, qui elle faisait un petit peu rêver, on l'avait vu, elle faisait rêver à tort, les autres églises, mais c'était certainement une église qui faisait beaucoup parler d'elle, Sardes et l'autre. Mais Philadelphie, visiblement, c'est l'église qui n'attire pas l'attention, mais qui a une extrême grande valeur aux yeux de Dieu, parce qu'elle ne s'est pas trompée de combat, elle ne s'est pas trompée de priorité. Le combat, la priorité, c'était de rester fidèle à la parole. Alors c'est sûr que tu as peu de puissance, c'est sûr que tu n'as pas dû faire d'étincelles, c'est sûr que tu n'as peut-être pas vu des miracles tous les 15 jours, c'est sûr que, je ne méprise pas les miracles, je ne méprise pas la dynamisme du Saint-Esprit, ok, on est bien d'accord, mais le Seigneur constate, il lui dit, oui, c'est vrai, tu as peu de puissance, tu as peu de dynamisme, mais par contre, elle est restée fidèle à la parole, malgré tous ceux qui s'opposaient à elle, elle est restée fidèle. Et ça, ça a une grande valeur aux yeux de Dieu, de ne jamais bien aimer, ne jamais se tromper de combat, ne jamais se tromper de priorité, ne jamais se tromper dans nos recherches. Le pivot central, autour duquel s'articule toute la lettre, ce sont les versets 8 et 10. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as gardé. Ici, le verbe garder, c'est pas juste d'avoir un œil dessus, c'est pas de savoir si tu as une Bible à la maison, parce que tu sais où elle est, parce que c'est pas ça, garder la parole. Parce que tu as gardé, dans l'original, en grec, ça signifie observer. Parce que tu as observé, même pratiquer. Observer, pratiquer, qui peut même être traduit par s'occuper soigneusement de. Parce que tu t'es occupé soigneusement de ma parole, parce que tu t'es occupé soigneusement, parce que tu as veillé attentivement à vivre ma parole, c'est ça la pensée de fond, c'est ça garder la parole. Quand Jésus dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements », c'est clair, c'est que vraiment ma vie, elle se met au diapason de ce que lui l'a dit. Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom. Pourquoi le Seigneur dit ça? Ben parce que elle, comme les autres églises, elle a dû certainement en avoir l'occasion. Hein. Forcément, des occasions, il y en a eu. Des tentations, il y en a eu. Elle a eu sûrement l'occasion de renier le Seigneur et puis de commencer à dévier, à dérailler d'une façon ou d'une autre. Tu n'as pas renié mon nom, c'est le nom dans la parole, c'est lié à l'identité. Le nom égale identité. Aujourd'hui, quand on donne un nom à quelqu'un, c'est parce que c'est la mode, souvent, ça nous plaît. Stéphanos, Stéphane, ça signifie couronné. Ah non, mes parents m'ont pas appelé Stéphane en pensant à une couronne, ils m'ont appelé Stéphane parce qu'ils trouvaient ça joli. Je ne sais pas pourquoi on vous a appelé Robert ou Christiane ou Françoise, mais de nos jours, souvent, on donne des prénoms pour des tas de raisons. Mais dans la pensée biblique, le nom est très important parce que le nom est révélateur de l'identité. C'est pour ça qu'à certains moments, le Seigneur va changer aussi les noms de certaines personnes. C'est pour ça qu'il change le nom de Simon en Pierre, etc. Et le nom ramène à la nature de Dieu. Les noms de Dieu dans l'Écriture, les noms de Dieu me disent qui est Dieu. Tu n'as pas renié mon nom, c'est-à-dire que tu n'as pas touché à ma parole, tu n'as pas touché à mon nom, tu n'as pas touché à qui je suis. Tu as gardé le cœur et tu as gardé la nature de Dieu dans une vie personnelle et pratique, puisque tu as observé ma parole Tu as su avoir une vie en conformité, en harmonie avec ce que je t'ai enseigné. Cette église, effectivement, elle n'a pas grand-chose d'extraordinaire en apparence, en extérieur. Elle ne fait pas d'étincelles, mais elle n'a pas dénaturé, elle n'a pas dévisagé le Seigneur, elle n'a pas touché à sa parole, elle n'a pas touché à sa personne. La parole de Dieu est restée pour cette église de Philadelphie, l'expression de son cœur, de sa nature, de qui il est. Touché à la parole de Dieu, ça aurait été touché à sa nature profonde. Et ça, l'Église se l'est interdite. Et le Seigneur l'a remarqué, il le souligne, et ça va être le pivot central, ça va être la base de ses belles promesses et de ses encouragements. Restez intègre, restez obéissant au diapason de la parole, j'insiste. Méchanceté, je suis en progrès comme chacun d'entre nous. Le Seigneur ne me demande pas combien de chapitres de ma Bible j'ai lu ce matin ou hier. Le Seigneur regarde mon cœur et il regarde ce qui dans mon cœur est aligné sur ce qu'il a dit. Est-ce que la parole, je l'ai observée? Est-ce que la parole, je l'ai pratiquée? Est-ce que je me suis sérieusement appliqué à la mettre en pratique, à l'appliquer à ma vie? À ce moment-là, ça m'intéresse, le Seigneur. Tu peux lire 10 chapitres. Si au bout du chapitre 2, tu l'as même plus que dans le chapitre 20, le Seigneur n'est pas, pardon, hein, le Seigneur n'est pas impressionné par nos performances. Ça ne l'intéresse pas. Par contre, tu peux lire 1, 2, 3, 4 versets. Le Seigneur, il peut te parler de façon précise. Il y a un rhéma qui sort. Le Seigneur te dit, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est ma nature. Et ça, tu vois, je voudrais, maintenant, je voudrais vraiment ça. Ils prennent à cœur et ça, tu le dis. Je voudrais vraiment que maintenant, tu raccordes ta vie au fil à plomb de la parole, que tu te mettes au niveau à bulle. Mais vraiment que là, tu t'alignes maintenant. Il y avait un verset. Il dit, OK, Seigneur, ça c'est bon, maintenant je le fais. Le Seigneur, il peut dire, tu as gardé ma parole. Vous pouvez avoir lu tous les petits prophètes, tous les grands prophètes, vous pouvez avoir le Nouveau Testament en 2 jours. Vous avez compris ce que signifie garder la parole et vivre une vie au diapason de la parole. Bon, après, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas lire, vous avez compris. Et restez, et on s'en rend bien compte, bien-aimés, honnêtement. Restez au diapason de la parole. Pas être des auditeurs oublieux, comme on le dit souvent. Notre Jacques dit que certains viennent, ils sont comme devant le miroir de la parole, parce que la parole ne révèle pas seulement qui est Dieu. Hein. La parole me dit aussi qui je suis. Elle me révèle aussi qui je suis, ce que je ne suis pas, avec amour, pour m'amener à, dans un but salutaire, dans un but bienfait. Et le moment où on est là, on est comme devant le miroir, comme dit l'apôtre Jacques. On voit ce que le Seigneur est, on voit ce que nous ne sommes pas, on voit ce qu'il aimerait que nous devenions. Et on passe à autre chose. Mettre sa vie au diapason de la parole, ça c'est un véritable combat. Ça c'est un véritable enjeu. Et c'est ce qui plaît à Dieu avant toute chose, parce que pour lui, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, je dirais même, c'est la preuve d'amour suprême. Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Alors oui, tu as un peu de puissance. Oui, mais tu as l'essentiel. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc, non seulement il y a vraiment cette observation, ce souci, cette attention minutieuse de la parole. Mon désir n'est pas seulement d'accomplir, mais même pas du tout d'accomplir une performance de lecture. J'insiste, pardon, mais réellement de mettre ma vie au diapason de cette parole et de la vivre, c'est de ça dont il est question, mais ensuite de persévérer dans cette voie-là. Le Seigneur insiste ensuite, vous avez lu avec moi, tu as gardé la parole de la persévérance, oponomai en grec, qui signifie de la constance, de l'endurance, de garder, ce n'est pas des performances. La vie chrétienne, la vie avec le Seigneur bien-aimé, ce n'est pas un marathon. La vie avec Dieu, c'est une course de fond. C'est une marche, c'est un marathon. C'est réellement de la constance, de l'endurance, de la persévérance, de la loyauté. L'idée dans ce persévérance, tu as gardé la parole de la persévérance, fait référence en réalité à la loyauté de quelqu'un. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est toujours, toujours, toujours là, toujours aligné. Il est loyal, il est toujours au diapason. La loyauté de quelqu'un qui ne dévie pas du but. Et là, à ce moment-là, le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il allait être question de loyauté à la parole de Dieu, en termes de vécu, bien sûr, c'est là que le Seigneur fait cette promesse. Puisque tu as gardé, dans le sens où on l'a bien écrit, eh bien, moi aussi, je vais te garder. Et littéralement, le Seigneur emploie le même verbe. Il est en train de dire, tu t'es occupé soigneusement de ma parole, ben moi, je te dis que peu importe ce qui arrivera dans ce monde, dans les temps qui viennent, je vais m'occuper de toi, mais de façon extrêmement soigneuse.
Amen.
Tu as veillé attentivement à ma parole, eh bien, je vais veiller attentivement sur toi. Le Seigneur emploie ici le même verbe dans l'original. Je vais veiller attentivement sur toi à l'heure de leur tentation. D'autres versions traduisent peut-être selon ce que vous avez dans vos traductions. Je te garderai de l'heure de la tentation. Littéralement, dans l'original, c'est « ek ». Ex, c'est-à-dire hors de, je te garderai hors de, je te garderai loin de la tentation qui va s'abattre sur le monde. À quoi le Seigneur fait-il exactement allusion à ce moment-là? Ce serait l'objet d'un sujet de méditation et d'étude. Je ne m'embarque pas là-dedans. Des hypothèses ont été, voilà, certains ont pensé à la grande tribulation, etc. C'est pas le sujet. Il y aurait beaucoup d'éléments à considérer, mais une chose est sûre. Le Seigneur est en train de dire d'une façon ou d'une autre, je sais me montrer fidèle. Et je sais, peu importe les temps et les circonstances, gardez ceux qui restent fidèles à ma parole. Je suis un Dieu, comme l'a dit notre frère, qui rémunère la foi, rémunère la fidélité. Vous savez, dans l'original grec, pistéou, pistis, la foi, la fidélité, c'est la même racine. Une foi qui ne serait pas fidèle, ce n'est pas la foi. La foi dans la pensée de Dieu est nécessairement persévérante. La foi est nécessairement obéissante. Une foi qui n'est pas obéissante, ce n'est pas de la foi, c'est de la superstition. La foi est nécessairement fidèle. La foi est nécessairement obéissante. La foi est nécessairement, amène nécessairement la rétribution, la rémunération. Alors effectivement, c'est une église, je répète, pour qui, évidemment, rien n'a été facile. Mais comme Smyrne, qu'on verra la semaine prochaine, c'est une église que le Seigneur rassure et qu'il encourage. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, c'est-à-dire tu es sur la bonne voie, continue ainsi, parce que je vais t'ouvrir des possibilités, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'éternité, c'est ma conclusion, que personne ne prenne ta couronne, Stéphanos, la couronne, il est question déjà, le Seigneur est déjà en train de faire une projection sur les récompenses éternelles, sans donner plus de précision, mais il est déjà en train de faire une projection sur l'éternité, il est en train de lui dire, j'ai un avenir pour toi ici-bas, je vais t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes même pas. Mais j'ai aussi un avenir particulier pour toi dans mon éternité. Et ici, il est en train d'encourager l'Église, dans sa difficulté, à garder les yeux fixés sur la rémunération céleste, sur les véritables richesses, sur les véritables valeurs. Tout le reste, bien aimé. Le Seigneur a promis, si vous me cherchez, ma justice, mon royaume, ma justice, je vous donnerai tout le reste. Merci Seigneur pour le tout le reste. Mais vous savez comme moi, et si vous ne le savez pas, vous l'expérimenterez à différents moments de votre vie, le tout le reste, ça va, ça vient. Ici-bas, tout passe. Ici-bas, écoutez-moi bien, tout passe. Tout passe. Tous passent. Tout passe. Rien ne dure. Tout est éphémère, corruptible. Et là, le Seigneur, il est en train d'encourager l'Église à garder les yeux sur les véritables richesses célestes, éternelles, sur les véritables valeurs. Et puis, je ferai de toi, je ferai de celui qui vaincra dans ce domaine, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Une colonne, si j'ai bien compris, je ne suis pas architecte, mais je pense que dans ma petite tête, j'ai compris qu'une colonne, c'est fait pour soutenir l'édifice. Une colonne, ça évoque la solidité, la stabilité, ça évoque même la longévité. Si la colonne est de qualité, l'édifice, il va tenir. Peu importe ce qui se passera en termes d'intempéries à l'extérieur, La colonne évoque la stabilité, la solidité, la longévité. Pourquoi? Parce que les gens qui sont attachés réellement à la parole de Dieu et qui la vivent, on a compris de quoi il est vraiment question dans la pensée de Jésus. Les gens qui sont attachés, qui sont fidèles à la parole, ces gens-là, ils sont solides. Les gens qui sont attachés à la parole ne s'effondrent pas. Les temps changent, les circonstances changent, les royaumes passent, les choses viennent se relever. Ma santé est là, merci Seigneur, et demain j'aurai peut-être des difficultés. Et là je peux avoir des biens matériels, mais demain je peux être éprouvé que. Merci Seigneur pour la famille lorsque, oui, mais demain je vais être éprouvé de façon ou d'autre, etc. Et en réalité, ce qui fait la différence, c'est pas les temps et les circonstances, c'est mon attachement à la parole, parce que les gens qui sont attachés à la parole de vérité sont des gens qui sont solides, qui sont sûrs. Ce sont des gens, en réalité, qui ne s'effondrent pas, ils tiennent bon. Ça peut secouer fort autour, il peut y avoir des tas de choses. Les gens qui sont attachés à la parole ne bougent pas. Amen. C'est ça ma force. Je suis fort, pas par moi-même. Je suis fort de la connaissance intime et pratique, empirique, empirique, basé sur l'expérience. Je suis fort de la connaissance intime et empirique que j'ai de la parole de l'unité. Ça, c'est la force de n'importe quel chrétien, c'est la force de n'importe quel serviteur de Dieu. Et la seule façon de tenir dans ce monde, s'effondrer de plus en plus, ce sera de rester enraciné dans cette parole éternelle et sûre. Alors, oui, pour Philadelphie, pour Aubagne, demain, 27, pour un cœur, pour une vie, ce message concerne autant des églises, que des cœurs, que des vies, que des situations diverses, variées, personnelles, individuelles, de groupe ou autre, ou collectives. Il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir de la pression. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y aura des pertes. Oui, ça ne se passera. Non, ça ne se passera pas comme tu aimerais que ça se passe. Dans tout ça, le Seigneur te rappelle, ne te trompe jamais de priorité. Si tu sais garder ma parole, si tu veilles attentivement sur ma parole, je veillerai attentivement sur toi. Et rien ne pourra te tenir, rien ne pourra te détruire. Tu seras une colonne. Et le principe d'une colonne, c'est qu'elle ne bouge pas. Reste-lui fidèle, reste accroché à sa parole, reste accroché à son nom. Peu importe ta situation ce soir, il est lui, Jésus. Il est le véritable. Il a rappelé son authenticité. Il a rappelé qu'il a toute autorité. Celui qui ne se trompe jamais parce qu'il est vérité, celui qui ne te trompe jamais. J'aime souvent dire que le Seigneur ne se trompe jamais. Et je rajoute, il ne me trompe jamais, parce qu'il est parfaitement authentique. Toute autorité, il a un avenir pour moi, toi, non seulement ici-bas, mais une destinée glorieuse sur cette terre et dans l'éternité, parce que tu as gardé la parole et la persévérance. Alors je ferai de toi une colonne dans le temple, dans la présence de mon Dieu, et tu n'en sortiras plus. Parce qu'il n'y a pas seulement la solidité, il y a l'éternité. Soyez bénis, bien-aimés. On va prendre le temps